Partager quelques textes de l'Écriture qui sont sur le même thème, le même registre. Ce sont les trois ou les textes qui, dans les évangiles, concernent les résurrections que Jésus a accomplies au milieu des hommes, accompagnés de ses disciples. Et ce qu'elles peuvent nous apporter, là aussi, d'étonnant sur la volonté de Dieu de nous parler de lui et de son amour. Et il y a trois résurrections que Christ a accomplies pendant son ministère, au milieu de ses disciples et dans les villes qu'il parcourait. La première résurrection concerne la fille de Jaïrus. C'est un texte que l'on retrouve dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Il y a une résurrection qui est celle du fils de la veuve de Naïm, qui est un texte que l'on retrouve dans l'évangile de Luc. Et puis, il y a aussi celle que vous connaissez certainement le mieux, c'est la résurrection de Lazare. Ces trois résurrections nous parlent, semble-t-il, de mort. Moi, je dis qu'elles parlent de vie. Et qu'elles parlent de vie à la fois pour ceux qui ont été concernés, mais elles parlent de vie aussi concernant Dieu vis-à-vis de nous. Il y a là aussi une réalité, c'est que nous étions morts lorsque nous étions éloignés de Dieu et que Christ nous a rendus participants à sa vie de résurrection. Mais qu'il veut encore accomplir son œuvre de résurrection dans nos vies, y compris lorsque nous nous sommes convertis, que nous avons dit oui, nous sommes nés de nouveau, mais il y a tout au long de notre vie là aussi à permettre à notre Dieu d'accomplir son œuvre de résurrection dans tous les domaines de notre vie. Et il y a parfois des choses qui ont pu rester dans des coins, mortes, inertes, et que Dieu veut aviver, apporter de la vie à ce qui était mort et qu'il nous a donné. Alors j'aimerais parler non pas des morts, mais des ressuscités. Parler non pas de la confrontation de l'homme avec le côté inéluctable de la fin de la vie, mais parler de la puissance d'un Dieu qui redonne la vie et qui ramène à la vie et qui veut accomplir cette œuvre dans chacune de nos existences. Dans le premier passage que je souhaiterais lire avec vous, eh bien, il s'agit de l'évangile de Matthieu au chapitre 9. J'ai choisi ce passage qui est le plus court des évangiles synoptiques entre Matthieu, Marc et Luc. Les autres sont beaucoup plus longs pour parler de cette résurrection, mais on a l'impression que Matthieu le traite de manière très rapide, et pourtant il dit des choses essentielles. Au chapitre 9, verset 18, « Tandis qu'il leur disait cela, un chef arriva. Il se prosternait devant lui et disait, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Alors, une femme atteinte d'une perte de sang, il y a un autre récit qui commence à l'intérieur de ce récit de résurrection. Je vais passer par-dessus et simplement dire que lorsqu'il arriva à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule agitée, il dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Eux se moquaient de lui. Quand la foule eut été chassée, il entra, saisit la jeune fille par la main, et la jeune fille se réveilla. On a l'évangile de Marc et l'évangile de Luc qui donnent aussi leur regard sur ce récit. L'évangile, la bonne nouvelle, n'est-elle pas cette bonne nouvelle que nous étions morts et que nous sommes revenus à la vie ? La bonne nouvelle n'est-elle pas que nous étions éloignés de Dieu, condamnés par le péché, et qu'en Jésus-Christ, nous avons trouvé la vie nouvelle, la résurrection et l'éternité avec Dieu. On a trois récits qui parlent de résurrection. Celle de Jaïrus, celle du fils de la veuve de Naïm, et celle de Lazare. Ce qui est intéressant dans ces trois résurrections, ce sont les trois seules qui nous sont mentionnées par rapport à Jésus, c'est que ce sont trois résurrections qui se passent à un stade différent par rapport à la mort. la fille de Jaïrus, quand Jaïrus vient voir Jésus, il est dit même dans l'évangile de Marc et de Luc que lorsqu'il est allé voir Jésus, elle vivait encore, elle était mourante, mais le souffle était encore là, la vie était encore là. Matthieu, lui, fait un raccourci, puisque alors que Jaïrus est auprès de Jésus, il y a certains de ses serviteurs qui disent « c'est plus la peine de le déranger, ne le dérange pas, ta fille est morte, c'est terminé ». Lui, Matthieu, dit, bon, il passe très rapidement, il dit, elle est morte. C'est le même texte, simplement, c'est plus lapidaire, plus court. Le fils de la veuve de Nain, il est dit qu'il était mort et que la veille, il était mort et qu'il était sur le chemin du cimetière. Là, on n'est plus dans la maison, ça ne vient pas de se produire, ça fait une journée. Et puis, lorsqu'il s'agit de Lazare, Lazare est mort depuis 3 jours. Et Jésus se déplace le quatrième. Donc on voit que là, il est même dans le tombeau. Il n'est plus du tout dans la maison, il n'est plus sur la route, il est enfermé au point que Marthe dira à Jésus qui veut faire ouvrir le tombeau, n'ouvre pas ce tombeau parce qu'il est mort déjà depuis quelques jours et qu'il sent déjà. 3 étapes dans lesquelles on est confronté à la mort, à un temps différent, et pourtant, où le résultat de la confrontation avec le Christ, le ressuscité, le Dieu puissant, eh bien, va apporter la vie, quelle que soit la situation. La fille de Jaïrus, on est à une étape où elle est encore dans la maison. Il est dit que la famille est encore présente. Il est dit que les parents sont autour. Même si Jaïrus est parti chercher Jésus, mais la famille est là, présente et entoure celle qui va mourir, celle qui est morte. Mais l'entourage se préoccupe encore de l'individu, de la personne. Ils sont là et il y a même ensuite eh bien, tout le protocole lié au deuil qui va se mettre en place avec les musiciens, avec les pleureuses, etc. Tout un entourage qui est présent, même si la jeune fille paraît encore vivante et qu'il n'y a rien à faire. Il y a de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent des grands cris. Il est dit que tous pleuraient et se lamentaient sur elle. On est dans l'intervalle entre la vie et la mort. On peut se dire aussi que dans notre vie personnelle, nous pouvons être encore confrontés à cela. Oh, pas forcément à la mort physique, mais à cette mort, vous savez, où il nous semble que l'autre n'est pas pleinement dans la vie, ou n'est plus pleinement dans la vie. Je raconte depuis quelque temps ce couple que j'ai rencontré sur une route à proximité de mon travail et qui avait perdu sa fille dans un accident de voiture. Et je me suis arrêté parce qu'ils étaient en train de fleurir un fossé où il y avait un if planté, des fleurs. Leur fille était décédée depuis 18 ans et tous les ans, ils viennent des Côtes d'Armor pour entretenir ce bord de fossé, pour rappeler que leur petite fille, en mettant un panneau avec son nom, la date de son départ, était partie. Et le résultat de cet échange que j'ai eu avec eux, à 1h de l'après-midi, je rentrais chez moi, c'est que ce couple-là ne vivait plus depuis 18 ans. Depuis 18 ans, leur vie était terminée. Ils me l'ont dit comme cela, ils me disent, on n'attend plus que de partir, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun intérêt. Le monde ne nous apporte plus rien. Notre vie, c'était notre fille unique, il n'y a plus rien dans notre vie. C'est le cas extrême de personnes qui sont là, complètement à l'arrêt dans leur existence et qui ne voient pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore de vivant pour eux. Ils attendent la fin. Mais on peut penser à ce que nous vivons, nous aussi, quand dans certains domaines de notre vie, nous ne croyons pas que Dieu puisse rendre vivantes les choses qu'il nous a promises parce qu'on n'y croit plus, parce que les circonstances, parce que le regard des autres, etc. Quelles que soient les raisons, il y a des domaines dans notre existence où nous pouvons dire « Voilà, ces choses-là sont mortes et elles ne sont plus, et elles ne seront plus jamais. » En tant que pasteur, il m'est arrivé d'accompagner, et je pense que ça peut être le cas des autres pasteurs qui sont présents ici, mais d'accompagner des personnes et d'avoir une très grande tristesse en se disant, mais il y a des choses tellement précieuses chez cette femme, des choses tellement précieuses chez cet homme, chez ce jeune homme, etc. Et pourtant, la personne ne croit pas, ne croit plus que ce que Dieu lui a confié, ses dons, ses qualités, ses capacités, peuvent lui permettre de vivre une dimension de vie tout autre. Un peu comme le jeune homme riche, qui a certainement plein de qualités, mais qui va s'éloigner de Jésus avec cette certitude qu'il ne peut pas abandonner ce qu'il est, ce qu'il a, sa situation, et il va renoncer à toute la vie qui est possible en Christ. Ça nous arrive, nous aussi, d'être autour de la famille comme des gens qui pleurent, qui poussent des grands cris, parfois en se disant, mais ce serait tellement merveilleux si le Saint-Esprit pouvait toucher cet homme, cette femme, et lui permettre d'ouvrir les yeux sur ce qui est mort, et de toucher du doigt la puissance de résurrection de Christ dans sa vie. Et puis il y a ceux qui sont autour de la famille, qui ne sont pas forcément croyants, qui sont comme chez Jaïrus, des gens qui pleurent, qui poussent des grands cris, qui se lamentent, qui constatent la mort, mais qui n'ont aucune réponse, aucune solution à apporter à la famille qui est touchée par ce drame, ou à l'individu qui est concerné. Lorsque nous ne laissons pas l'œuvre de Dieu s'accomplir, sa vie nous remplir, nous pouvons être ou avoir été, comme cette jeune fille, des presque vivants. Jusqu'à ce que Christ nous rencontre. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 13, il est écrit « Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. » Il nous a rendus vivants. Le but de Christ pour chacun d'entre nous, c'est de nous rendre vivants. Vivants. Mais pas simplement comme un nouveau-né qui va pousser son premier cri. C'est magnifique, un nouveau-né qui pousse un premier cri. Mais c'est de faire que cette vie grandisse, se développe et permettre à l'enfant de devenir un adulte épanoui. C'est cela, la pensée. Il vous a rendu vivant avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. La position de cette jeune fille, c'est qu'elle est encore au milieu des vivants. Elle provoque encore des émotions, des cris, des larmes. Mais le monde qui est là, qui est autour, n'a rien à lui proposer pour que sa situation soit changée. Lorsque le chef de la synagogue, Jaïrus, arrive auprès de Jésus, l'évangile de Luc, nous, dans son récit, dit que un serviteur vient lui dire « Ta fille est morte, n'importune plus le maître ». C'est plus la peine de le déranger, c'est terminé. Et c'est certainement la pensée du monde face à certaines situations inéluctables. C'est plus la peine de déranger Dieu. C'est plus la peine de faire une démarche. C'est plus la peine, c'est terminé, c'est fini. Et combien de fois nous posons ce jugement-là dans nos vies en disant c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Et on tire un trait en se disant, voilà, maintenant il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. Moi, j'ose affirmer aujourd'hui qu'il y a de l'espérance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et qu'il y a de l'espérance dans tous les domaines. Et que même si des domaines de ma vie personnelle semblent être morts ou avoir été tués par les circonstances, les situations de crise, de rupture, peut-être aussi de désobéissance et de péché, j'ose dire qu'il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Amen. Et ne pas être comme ce serviteur qui dit « Ne le dérange plus Jésus, c'est terminé. » Or, Christ est tout-puissant pour guérir et pour sauver. Alléluia, alléluia. C'est cela qui fait que Jaïrus, malgré ce que dit son serviteur, va continuer sa démarche et demander à Jésus de venir chez lui. D'ailleurs, Jésus, dans l'évangile de Luc, dira « N'aie pas peur, crois seulement, elle sera sauvée. » Mais elle est morte. On retrouve le même discours qu'on retrouvera plus tard auprès de Marthe. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus lui dit « Même si toi, tu vois un côté inéluctable, cette limite-là n'existe pas en moi. » Il n'y a pas de limite en Christ pour qu'il puisse agir dans ma vie, qu'il puisse apporter de la vie. Alléluia. Au stade où est la fille de Jaïrus, l'entourage est encore un peu là. L'entourage est plutôt défaitiste, voire décourageant pour Jaïrus. Le vivant paraît mort et où le mort semble encore vivant. C'est parfois aussi la situation dans laquelle se trouve l'homme qui est dans le péché, qui est sans salut, ou celui qui n'accepte pas l'œuvre de résurrection entièrement dans son existence. La position de la jeune fille, encore au milieu des vivants, provoquant des émotions. Et un constat, elle est morte. Or Jésus dit non, elle dort. Là où les hommes voient quelque chose de définitif, Christ confronte Jaïrus et son entourage à sa puissance, à l'autorité de Dieu, la force de la vie face à la mort et au néant. Paul dira cette parole qui ne peut être comprise que par ceux qui sont en Christ, c'est « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire sur quoi ? Sur la mort, sur tout ce qui est mort, y compris mort en nous. La puissance de Christ, c'est la puissance de la résurrection et de la vie. Trop tard, disent les serviteurs. Elle ne fait que dormir, dit Jésus. Et je crois qu'il y a dans nos vies des choses qui sont endormies et que Dieu veut réveiller par son Saint-Esprit. Et ce sera le cas jusqu'à la fin de notre vie, afin que nous soyons transformés de gloire en gloire et de victoire en victoire, à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts à laisser le Saint-Esprit réveiller ce qui dort en nous ? On peut penser, nous, que c'est mort. L'Église peut même penser que c'est mort. Parfois, c'est arrivé que l'Église dit « Mais non, c'est plus la peine. Reste assis, bouge plus. Assiste au culte. Ne fais plus de mouvement. C'est terminé. » Parfois, on entretient cette parole. C'est terminé pour moi et pour ma vie, pour mon appel, pour ce à quoi j'étais appelé. Ce n'est que endormi et Dieu peut le réveiller. Est-ce que je suis prêt à croire que Christ veut réveiller ce qui dort en moi. Vous savez, il y a l'ennemi, son rôle c'est de tenir ce langage et de veiller surtout à ne pas réveiller ce qui dort. C'est son rôle, ne pas réveiller cela. Vous avez un Abraham, vous connaissez ce personnage biblique dans l'Ancien Testament, Abraham, Dieu lui avait dit « tu auras un fils ». Voilà. Et ce fils sera le commencement d'une multitude. Et Abraham, malgré les promesses de Dieu, a cru qu'il était trop tard pour lui et pour sa femme, pour avoir un fils. Alors il a choisi un chemin de traverse sur les conseils de son épouse, qui ne sont pas toujours de bons conseils. En général, oui, mais dans ce cas-là, non. Sur les conseils de son épouse, il est allé vers sa servante et il a engendré Ismaël. Parce qu'il a cru que c'était fini, que c'était trop tard pour lui. Combien de fois nous posons des trop tard ? Trop tard. C'est mort, c'est fini. Et que nous choisissons des chemins de traverse qui ne font qu'apporter du désordre et non pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on peut dire que Israël paye les conséquences du choix d'Abraham et de Sarah qui a dit « c'est trop tard, c'est mort, il n'y a plus de vie en nous » jusqu'à ce que Isaac vienne au monde. il n'est pas trop tard pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Du désespoir à l'espoir, Jaïrus emmène Jésus chez lui et passe par le dessus, n'importune pas le maître. Mais parce que je sais en qui j'ai cru, j'irai au bout de ma foi. Quels sont les Jaïrus au milieu de nous qui ont besoin que la vie revienne dans leur vie, de rentrer dans les promesses de Dieu? Le fils de la veuve de Nain, c'est un autre épisode. Il est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 7 que Jésus se rendit dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il approcha de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle une importante foule de la ville. Le Seigneur la vit, il fut ému par elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent là. Il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Réveille-toi ! Là encore, il ne faisait pour Christ que dormir. Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Et tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. » Ah. Un épisode différent. Là, le mort n'est plus chez lui, il est sur la route du cimetière. Il est dit qu'il était décédé certainement la veille, puisque les enterrements se font très rapidement, en Israël comme dans les pays arabes, et que, voilà, il y avait la veuve qui était entourée d'une grande foule et qui accompagnait ce qu'on appelle le soros. Alors, ce n'est pas un cercueil comme nous, on le voit dans nos obsèques, hein, c'est plutôt un brancard sur lequel le mort repose, puisque la tradition à cette époque de Jésus était davantage le fait de mettre les corps dans des grottes. Donc on portait ça sur un soros. Moi je me disais, un soros, c'est bien pour aller au cimetière. Bon là c'est une blague, c'est juste une blague hébraïque. Mais il portait le mort avec la foule, avec la mère et la veuve. Il y a un détail qui peut peut-être nous interpeller, c'est que lorsque Jésus, la veille, s'est mis en route, il était à 45 km de là, juste avant d'arriver à Nain. C'est-à-dire qu'il était à Capernaum, il y a environ 45 km entre les deux villes. Et tout à coup, j'ai réalisé que pour être disciple avec Jésus, fallait certainement avoir de bonnes chaussures. Parce qu'il a fait 45 km, c'est-à-dire la distance un petit peu plus longue de 3 km d'un marathon, pour aller de Capernaum à Nain. En une journée. D'ailleurs, j'ai prévu, juste après ce culte, on va aller faire 40 km pour faire une réunion, mais on ira à pied. Ça vous donnera une idée, puis on fera une réunion d'évangélisation à 40 km de là. Comme ça, on saisira le texte. C'est étonnant que Jésus se déplace pour quelqu'un qui ne lui a rien demandé. La veuve n'a rien demandé. Mais il est dit dans ce texte-là qu'il fut ému par elle en arrivant. Et Jésus, connaissant toutes choses, ça veut dire qu'il a fait 40 km en une journée pour être juste là au moment où ce jeune homme sortait de la ville de Nain. Jésus a fait du chemin pour venir vers la veuve de Nain et ce jeune homme. De la même manière que Jésus a fait du chemin pour venir vers chacun d'entre nous, il a parcouru la distance du ciel vers la terre pour que nous puissions être touchés par lui. Il est dit qu'il a touché le soros, le brancard, le cercueil, et que ça a arrêté le mouvement de la mort, de l'enterrement, et que l'œuvre de résurrection s'est faite. Il s'est passé la même chose pour chacun d'entre nous. Christ a fait non pas 40 km, il est parti du royaume de Dieu l'été, il régnait avec Dieu, avec le Père, et il a décidé, il a accepté de faire ce chemin jusque sur la terre, afin que je puisse être touché par lui et que je revienne à la vie. Est-ce que nous avons conscience de ce chemin que Christ a parcouru, ce chemin volontaire? Il s'est mis en route, certainement que les disciples ont dû se dire « Oh là là, mais où est-ce qu'on va ?» Mais c'est beaucoup trop long. Je me rappelle avoir fait des marches commando quand j'étais militaire, je faisais mon service militaire, et je me rappelle avoir fait une marche qui a duré 23 heures. Avec le sac à dos, une quinzaine de kilos, les armes, etc. Et j'étais le sergent, donc j'étais celui qui dirigeait. Et je peux vous dire qu'au bout déjà de 2 heures, j'avais mes soldats, j'avais 9 soldats avec moi, commençaient déjà à me dire, on va où? Quand est-ce qu'on s'arrête? Où on va dormir? Hein? Et puis au bout de la 10e heure, ils ont commencé à grogner. Au bout de la 14e, 15e, 16e, 17e heure, j'avais les gars qui ronchonnaient. Puis alors quand on a commencé à traverser les villages de la Somme, dans la nuit, comme ça, en silence, nous traversons, alors plus personne ne parlait. Au bout de la 20e heure, il n'y avait plus personne qui parlait. On marchait comme des pantins, mécaniquement, etc. Et puis à 23e heure, on a posé le camp. Et là, les gars ont dit, ouf, moi aussi. Je pense que les disciples étaient là aussi dans la même attitude, mais où on va? Qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il nous emmène aussi loin? Ce qui mène Christ, c'est la force de son amour pour chacun de ses enfants. Ce qu'il a fait descendre des lieux célestes, du royaume de Dieu, jusque sur cette terre, c'est l'amour pour chacun d'entre nous. Il a été ému par la situation dans laquelle nous nous trouvions. Il a été ému en se disant, mais s'il continue sa vie, si elle continue sa vie, ce sera séparé de Dieu. Alors, il a fait ce chemin. 45 kilomètres à pied, les disciples ronchonnant certainement derrière lui, pour arriver à la sortie de la ville. Et là, il dit à cette femme, ne pleure pas, cesse de pleurer, parce que la vie est là. Il lui dit, voilà, maintenant tu es celle qui va être rencontrée par Dieu. C'est d'ailleurs, dans ce texte de Luc 7, 11, il y a une particularité que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que dans ce texte-là, c'est là une des rares fois où dans les évangiles, avant la crucifixion, Christ est appelé Seigneur. Une des rares fois. Il faut savoir que dans le monde judaïque, le fait de dire « kurios » est quelque chose qui est... c'est le mot grec qui correspond à Adonai, en hébreu. Or, Adonai, Seigneur, pour les Juifs, c'est le mot qu'on prononçait à la place de prononcer le nom de Dieu quand on lisait la Bible. Tout simplement parce que tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Donc les Juifs avaient dit, on ne dira plus Dieu. Lorsque le texte présente le mot Dieu, les Juifs lisent Adonai. Et Adonai, c'est curieux. Donc, dire à propos de Jésus qu'il est Seigneur, c'est dire qu'il est Dieu. Et dans ce texte-là, ce qui est présent, c'est la conviction, à la fois pour Matthieu, mais pour ceux qui sont là, que Jésus est Dieu. Or, c'était quelque chose de totalement interdit, c'est proclamer la messianité de Jésus de manière publique. Or, lorsque le Christ étend sa main et dit à ce jeune homme, « réveille-toi », il y a cette conviction, à la fois pour Matthieu et pour les autres, qu'il s'agit bien du Messie. C'est le Seigneur qui l'a vue et eut compassion d'elle, c'est-à-dire c'est le Messie. Or, ce qui nous rend vivants, c'est non pas d'avoir rencontré quelqu'un d'important, et d'ailleurs, à la suite du texte, on voit le décalage qu'il y a entre les disciples, entre Matthieu et puis cette femme, c'est que les Juifs qui sont autour se disent, on est saisi de crainte, certes, on glorifie Dieu, vraiment, mais qu'est-ce qu'on dit? Un grand prophète s'est levé parmi nous. Et quand on dit un grand prophète, ils font référence à ce fameux prophète qui doit précéder l'arrivée du Messie, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Ils sont en retard d'un train. Ils proclament l'arrivée de Jean-Baptiste en voyant Jésus faire des miracles, alors qu'ils ont le Messie sous les yeux. Et lorsque le texte nous dit « Le Seigneur l'a vu et eut compassion d'elle », il est dit dans ce texte grec qui reprend la notion de Seigneur Adonai, le Messie eut compassion d'elle. Et ce qui est notre réalité aujourd'hui à nous, c'est que Christ, le Messie, a eu compassion de nous pour nous ramener à la vie. Pourtant, nous n'étions pas à peine morts, nous étions déjà sur le chemin du tombeau, prêts à être portés par les autres, on n'avait même plus notre autonomie, on était portés sur le soros pour être enterrés ou mis dans le tombeau, et Christ nous a ressuscités. C'est la réalité de chacune de nos vies. C'est la réalité de ceux qui nous entourent et qui ne croient pas en Christ. Jeune homme, je te le dis, lève-toi, touche le cercueil, dit Matthieu. Et ce jeune homme-là, même s'il ne pouvait pas l'entendre, eh bien, ses paroles lui donnent la capacité de revivre, de se lever et de se mettre à parler. J'aime bien ces deux notions, se lever et se mettre à parler. Parce que ce qui nous a été réalisé par Christ dans notre vie, c'est cela, permettre qu'après avoir découvert le salut en Christ, nous puissions nous lever et nous mettre à parler. Mais parler de qui et de quoi? Vous savez, quand on a été ressuscité, je crois qu'on a des choses à dire, non? À part le fait qu'on a vu un grand tunnel blanc dans lequel on a marché avec une lumière au bout. Non, on a vu quelque chose d'autre. On a vu le Christ nous ouvrir les portes de l'éternité, de la gloire de Dieu, de la personne de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas des choses à dire? Est-ce qu'il n'y a pas à se lever et à parler? Alléluia. Les autres juifs se sont simplement dit, bah, tiens, c'est un bon prophète. C'est ce que disent certains, vous savez, on entend beaucoup de gens autour de nous qui disent, Jésus, c'était quelqu'un de bien. Je ne suis pas croyant, mais c'était quelqu'un de bien. Ils sont semblables à ces juifs qui disaient, c'est un grand prophète. Quel intérêt s'il ne m'a pas rendu vivant? Et puis, la dernière résurrection, c'est celle de Lazare. Lazare, vous connaissez l'histoire, Marthe a envoyé des serviteurs pour amener Jésus parce que son frère était malade, et le frère meurt. Christ reste pendant 3 jours là où il est, et il se déplace le 4e jour. Quatrième jour, alors que Lazare est déjà dans son tombeau, là, on n'est plus sur le chemin, on est dedans. C'est pas par hasard si Jésus ne vient que le 4e jour. Dans la tradition juive, il est dit dans les textes que l'âme du mort reste pendant 3 jours à proximité du corps. C'est la tradition juive, des pensées juives comme ça. L'âme du mort reste pendant 3 jours à côté du corps. Eh bien là, Jésus vient le 4e jour. L'âme n'est même plus là. Vide, une enveloppe. C'est pas pour rien si Jésus est venu que le 4e jour. Et il s'approche, et on s'aperçoit ici que dans ce texte de la résurrection de Lazare, la personne qui va être concernée, comme pour la veuve de Nain, c'est pas Lazare en lui-même, lui était mort. Il ne demandait plus rien à personne. Mais celle qui demande, c'est Marthe. Et celle pour laquelle il y a nécessité que sa foi augmente, c'est Marthe. L'accent de l'évangéliste est non pas sur Lazare, mais sur Marthe. C'est elle qui tient le rôle principal dans ce récit. Et je dirais qu'il y a dans ce texte deux façons un petit peu de voir comment la gloire de Dieu se manifeste. Par la résurrection de Lazare, mais aussi par la révélation qu'il fait à Marthe. Les deux choses sont aussi présentes. C'est un, il ressuscite Lazare. Deux, il ressuscite la foi de Marthe. Alléluia! Les miracles, notamment dans les évangiles, mais des recherches sont faites au niveau exégétique sur les évangiles aujourd'hui encore, on découvre un peu que l'évangile de Matthieu, par exemple, est un évangile pastoral où les miracles n'ont d'intérêt que s'ils nous enseignent quelque chose. Là, on est entre autres dans l'évangile de Jean, mais il y a cette notion, c'est d'abord le miracle, mais aussi le miracle de la foi de Jésus, qui garantit la résurrection de la vie éternelle. C'est lui qui fait vivre. Et il est la vie parce que son Père la lui a donnée et qu'il la communique aux hommes. C'est ce qui est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Lorsque Marthe envoie son serviteur vers Jésus, elle l'envoie vers lui parce qu'elle croit. Mais elle croit en quoi ? En quelqu'un qui est l'ami de la famille. C'est la seule famille dans les évangiles dont il est dit qu'ils étaient les amis de Jésus. En tout cas, que Lazare était son ami. On ne connaît pas d'autres amis à Jésus, sinon Lazare. Alors Marthe croit-elle en un ami qui a des pouvoirs, en un prophète qui est puissant en œuvre et en parole? Certainement. Est-ce que Marie a une autre perception, sa sœur? On s'aperçoit que lorsque Jésus va venir dans sa maison, Marie va s'asseoir au pied de Jésus en se disant, voilà, ce qui est important, c'est ce qu'il me dit. Alors que Marthe va faire la cuisine, préparer le repas et répondre aux obligations du quotidien. Est-ce qu'elle a conscience que c'est le Fils de Dieu qui est chez elle? Je pense que si ça avait été le cas, elle aurait pris une toute autre position. Lorsqu'elle appelle Jésus, elle est certainement aussi dans cette attitude, c'est quelqu'un qui est capable. Mais qui est-il vraiment? Le but de la résurrection de Lazare, c'est de faire en sorte que la foi de Marthe atteigne un autre niveau et qu'elle ne voit plus en lui simplement un ami de la famille, mais le Fils de Dieu. En ce sens, combien y a-t-il d'hommes et de femmes dans cette Bretagne catholique et chrétienne, de personnes qui connaissent Jésus comme un ami de la famille? J'ai la chance au travail de parler avec des patientes et d'avoir un temps d'échange biblique avec celles qui le désirent. J'avais deux nouvelles patientes qui n'étaient jamais venues et on a pris un temps autour de l'écriture et sur le dialogue de Pierre et de Jésus où Jésus lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» C'est la question fondamentale. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre est bloqué par sa désobéissance passée. Et ces femmes disaient, en sortant de ces trois quarts d'heure d'échange biblique, wow, « C'est génial, on a découvert Jésus d'une autre manière. » Il y en a une, elle n'était pas croyante, elle venait par curiosité, et elle a dit « Mais j'ai découvert Jésus avec un nouveau regard. » L'autre était chrétienne. Elle a dit la même chose. Mais combien d'hommes et de femmes connaissent Jésus comme un ami de la famille et non pas comme le Seigneur des Seigneurs? Le miracle de la résurrection de Lazare, c'est de faire accéder Marthe à un autre niveau de révélation. De la même manière, les miracles de résurrection dans nos vies, de ce qui est mort ou endormi, c'est afin que nous découvrions aussi que Jésus n'est pas qu'un ami ou un ami de la famille, une connaissance, mais le Fils de Dieu qui peut ramener à la vie ce qui était mort. Amen. Seigneur, nous voulons simplement nous laisser gagner là aussi par l'œuvre de ton Esprit dans nos vies et laisser cet Esprit agir en nous. Merci d'accomplir cette œuvre de résurrection et de vie. Tu connais ce qui en nous doit être ressuscité, redevenir vivant. Tu connais les peurs et les craintes qui nous empêchent aujourd'hui encore de laisser ton œuvre de vie s'accomplir. Tu connais les paroles qui sont prononcées autour de nous, de nos familles, de nos proches, peut-être même de l'Église, et qui disent que tout est terminé et fini. Mais nous savons que tu es le Tout-Puissant. Et ton amour pour nous est infini. Que ta pensée, c'est que nous puissions vivre en plénitude de vie et non pas seulement exister ou vivre partiellement. Par ton esprit, Seigneur, parle-nous. Donne-nous là aussi de nous lever et de proclamer ce que tu as fait, comme pour ce jeune homme de Nain. Par ton esprit, Seigneur, accomplis ton œuvre. Amen.